musique, cinéma, politique, social, environnement, santé, culture, sport. Tous les jours à 12h15 et 19h15, Je vous dis pas, votre magazine d'information locale.
Le projet Terre Fertile existe depuis 2014 sur l'île Dieu. L'objectif du projet initié en 2015, c'est la mise en valeur du potentiel agricole et la reconquête des friches agricoles ilaises. En 2 ans d'existence, comment avance le projet? Quelles sont les actions en cours et à venir? On fait un point avec Mathilde Barret. Bonjour.
Bonjour.
Tu es chargée de mission Terre Fertile.
Tout à fait.
Michel Chauveau, bonjour.
Salut Roland.
Tu es chargée du développement économique à la mairie de l'Île-Dieu.
Absolument.
Georges Biraud, bonjour.
Bonjour Roland.
Tu es le président du collectif agricole de l'Île-Dieu.
C'est ça même.
Depuis 2015, quels ont été les grands chantiers du projet Terre Fertile?
On pourrait peut-être, comme premier grand chantier, parce que je crois que c'est important à le mettre en valeur, c'est le fait, comme vous le savez, que le projet Terre Fertile est porté par un ensemble qu'on appelle le Comité de développement de l'agriculture.
Le CDA.
Oui, le CDA que nous avons constitué au début de notre mandat 2014.
C'est en octobre 2014 exactement.
Oui.
Oui, c'est ça. Voilà, tout à fait. Il a fallu le temps de sa mise en œuvre. Et donc, il a été porté en même temps, je dirais, ça qui est drôlement intéressant, par la commune, bien évidemment, mais aussi avec les concours des associations, le collectif agricole, l'association IE Demain, et avec l'aide et le concours d'une association des Pays de la Loire, qui est Terre de Liens, Pays de la Loire. Voilà, c'est un... Et puis, l'ensemble des agriculteurs qui sont sur les lieux. Et ça, c'est quand même intéressant parce que de nombreuses personnes ou responsables sur le continent s'étonnent, en fait, qu'on ait réussi à monter une association. C'est même pas une association, d'ailleurs. C'était un groupement
projet,
de fête.
Ouais. Quoi, groupement.
Voilà, et je pense que c'est la première chose qui est importante à dire. Puis, deuxième chose quoi important, c'est que on s'est rendu compte très vite au bout de deux ans que prendre chaque année un ou une stagiaire pour travailler sur le projet, ça durait une petite année, puis qu'après il fallait tout reprendre à zéro. Donc on s'est donné dans l'idée d'embaucher un ou une chargée de mission, et là en l'occurrence
c'est Mathilde
qui avait été stagiaire auparavant, et comme ça avait très bien fonctionné, on s'est dit si Mathilde en était d'accord, il a fallu qu'on la supplie, mais finalement elle nous est arrivée, nous en sommes bien contents, mais il fallait qu'on la paye
forcément,
parce que cette fois-ci il fallait
l'employer.
Ouais. Et là ce qui est vraiment très très fort, c'est qu'on a réussi à mettre en commun des financements
nombreux financements à première vue.
De nombreux financements. Que Mathilde va rappeler, justement, je crois que c'est...
Ouais. Du coup, c'est dans le cadre d'une demande de subvention qu'on avait fait donc quand j'étais en stage en 2016 auprès de la Fondation de France, qui finance en partie le projet pour des initiatives collectives pour l'environnement, donc qui correspond au projet Terre Fertile. Ensuite, il y a aussi un financement de la mairie sur le poste et puis des deux associations du collectif agricole de Yeux Demain, et puis aussi le FEDER qui finance
les fonds européens.
Voilà.
Georges.
Oui, moi je trouve que c'est quelque chose de particulier et d'assez unique, parce que c'est rare de voir des projets financés à la fois par la collectivité publique, l'Europe, des subventions de fondations, et puis les associations qui quand même ont chacune décidé d'apporter 2400 euros par an sur 2 ans. Donc ça fait 4800, donc à chaque association de les trouver. C'est important parce que ça veut dire que ce projet, il est vraiment pris à cœur par les associations. C'est quelque chose de rare de voir des associations mettre de l'argent comme ça pour un projet où en général on dit c'est à la commune de le faire, c'est pas à nous, voilà. Je pense que c'est assez unique ce travail de collaboration entre la mairie et les associations et les agriculteurs, parce que si les agriculteurs n'étaient pas là, ça fonctionnerait pas non plus. Donc ça aussi, ça a été un des chantiers importants de mettre dans le coup les agriculteurs, parce que déjà présents, parce qu'ils ont la connaissance du terrain, Ils ont plein de connaissances que nous, on n'a pas forcément. Et donc, ils nous aident aussi à valoriser les terres qui sont en friche pour qu'elles deviennent agricoles. Et en même temps, pour que ça se passe bien, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de concurrence ou de fausse concurrence entre ceux qui pourraient s'installer et ceux qui sont déjà là. C'est-à-dire qu'il faut que ça se fasse dans la bonne humeur et puis que tout le monde s'y retrouve. Hein, voilà, ça c'est très important aussi.
Grand chantier pour ce projet Terre Fertile, répertorier les terrains. C'est fini ? C'est en cours ?
Alors,
Mathilde,
là-dessus,
Georges ou Michel ?
Mathilde.
Sur le fait de répertorier les terrains, c'est terminé. En fait, ça, c'était le premier travail du stagiaire en 2015, donc de faire une cartographie, un état des lieux de tous les terrains agricoles sur l'Île-Dieu. Donc, tous les propriétaires avaient été contactés par courrier en leur demandant quels seraient leurs souhaits par rapport à la vocation, à la destination qu'ils aimeraient donner à leur terrain, à savoir s'ils aimeraient qu'ils soient défrichés pour être ensuite loués à un agriculteur. Donc là-dessus, on avait reçu beaucoup de réponses, environ 40%, je crois, de taux de réponse. Donc,
C'est plutôt satisfaisant.
Ce qui était vraiment encourageant. Et parmi ces personnes qui avaient répondu, il y en avait la grande majorité qui se disaient prêtes, effectivement, à mettre leur terrain à disposition. Donc là aussi, c'était positif. Par contre, on avait aussi beaucoup de courriers qui nous sont revenus parce que l'adresse n'était pas bonne ou en fait, le propriétaire était inconnu.
C'est donc, ce qu'on appelle des biens sans maître, le propriétaire inconnu.
Oui, disons qu'il y a des terrains dont il n'y a pas de propriétaire, et par rapport à ces terrains-là, on va effectivement lancer une démarche donc de récupération des biens sans maître avec la commune et en partenariat avec la SAFER pour que ces terres donc qui n'ont pas de maître rentrent dans le giron de la commune.
Ces terrains agricoles sont nombreux sur l'île-Dieu?
Les biens sans maître possibles.
Oui, là, oui, ils sont très importants parce que l'Île-Dieu, comme d'autres territoires en France, a la particularité d'avoir des terrains qui ont été partagés au fur et à mesure des sorties donc, d'héritage. Et donc, ils sont nombreux, petits et enfrichés. Mm-hmm. Voilà. Et donc, il y a un travail énorme à faire, mais comme ils sont petits, et en friché, souvent, en fait, ceux qui en ont hérité ne s'en sont pas souciés. Et au bout de deux ou trois générations, un certain nombre ne savent même plus qu'ils ont pu être propriétaires. Quand on fait des recherches, nous, ben, on ne trouve plus rien. Donc, la réglementation, la loi, c'est qu'à ce moment-là, la commune, avec l'aide donc, de la SAFER, en l'occurrence, la SAFER, Société d'aménagement foncier et d'établissement rural, c'est une société qui dépend du ministère des Finances et du ministère de l'Agriculture, qui a été donc créée il y a fort longtemps avec pour objectif justement de travailler sur l'organisation du foncier agricole pour faciliter l'installation. Et là justement, ce qu'on fait, c'est bien pour faciliter l'installation. Alors qu'on n'est pas dedans. Donc la SAFER a depuis cette année, la possibilité de travailler à aider les collectivités à retrouver ou pas ces terrains et à faciliter en fait leur passage au bout de toute une procédure, sur laquelle on peut revenir, le passage dans le giron de la collectivité à partir du moment où on a la certitude qu'il n'y a plus de propriétaire connu.
Pour en venir aux propriétaires, ils louent ou ils prêtent leur terrain, Georges?
D'une manière générale, les gens, jusqu'ici, prêtent plutôt leur terrain que les louer. Parce qu'on est toujours dans cet état d'esprit où l'Île-Dieu, les terres elles peuvent valoir cher si elles sont urbanisées. Donc il y a toujours quelque part un petit peu l'espoir que la terre agricole redevienne constructible un jour. Donc, faire un bail aux agriculteurs, c'est gênant. Enfin, pour eux, ça semble gênant, alors qu'en fait, c'est faux. Parce qu'à partir du moment où une parcelle qui était en zone agricole devient zone urbanisable, le bail devient caduque automatiquement. Donc, il n'y a pas de souci à se faire de la part du propriétaire. Il retrouve son bien pour le construire. Mais bon, c'est une culture qui date de plusieurs dizaines d'années, qui petit à petit va se modifier, tout du moins on l'espère. Surtout Lorsque les propriétaires des terrains voient que les agriculteurs produisent des légumes, produisent de la viande, produisent du lait, du fromage, et puis que ça sert à Lille, quelque part, ils peuvent être fiers de pouvoir louer leur terrain à des agriculteurs parce que...
Louer ou prêter.
Louer ou prêter. Mais ensuite, plutôt que prêter, louer en faisant un vrai bail, parce que de fait, c'est une manière de participer de manière économique et vivrière importante à la vie de Lille, quoi. Hein. Donc il faut espérer que ça va changer au fur et à mesure. C'est vrai que sur le continent, la question ne se pose pas savoir s'il faut faire un bail ou pas. Une terre est agricole, elle est agricole, les propriétaires font un bail. Bon, on sait bien que sur les zones, soit dans les Alpes, soit... dans les zones où il y a du ski, du sport d'hiver, ou le long de la côte, où il y a beaucoup de tourisme, malheureusement, la spéculation foncière est quelque chose qui nous bride énormément. Quoi.
Un bail de combien de temps en général ?
Le bail, c'est un bail de 9 ans.
Mmh. Hein, renouvelable, forcément.
Qui est renouvelable, tacitement. Il ne peut être... le propriétaire peut récupérer, enfin pas récupérer, mais utiliser la terre agricole, si c'est lui qui veut la cultiver, ou un de ses enfants, là, à ce moment-là, le bail, il devient caduque automatiquement.
Michel.
Oui, je voulais simplement préciser, en plus de ce que vient de dire Georges, que cette idée que les terres agricoles puissent redevenir un jour urbanisables, ça a été le cas il y a une dizaine d'années, jusqu'à récemment. La législation, maintenant, en France... et sur des territoires comme les dieux font que la construction et le PLU va dans ce sens-là. Maintenant, elle va se concentrer, elle se concentre de plus en plus sur les zones déjà urbanisées. Et donc, il n'y a, j'irais plus, enfin, il faut se retirer de l'esprit que les zones agricoles ou les zones naturelles, c'est pareil, puissent devenir un jour des zones urbanisées. Non, ça, c'est fini, ça. Les zones agricoles resteront agricoles parce que il y a maintenant une législation qui veut que l'agriculture puisse être préservée lorsque c'est possible et que construire, c'est construire dans des zones qui sont déjà dédiées pour cela. Donc le PLU fait que les fameux 10% de la surface de l'île-Dieu qui sont maintenant décidées comme zone agricole, elles resteront agricoles. Je crois qu'il faut vraiment qu'on se retire ça de la tête. Ce ne sera plus des zones constructibles.
L'agriculture, c'est une part importante de l'économie de l'île-Dieu ?
Mais bien sûr, c'est une part importante de l'économie de l'île-Dieu. C'est une part importante...
une part importante en combien de pourcentage ?
Alors, si je parle sur le plan économique, j'en sais rien du tout. Mais parce que c'est vrai qu'on n'a pas fait le calcul. Ça, parce que c'est dans les chiffres, il y a ce qu'on appelle l'économie primaire. L'économie primaire, ça prend sur les deux, et la pêche et l'agriculture. Bon, donc on arrive difficilement à séparer l'un de l'autre. Mais c'est important en termes d'économie, comment je veux dire, de production sur les deux.
Et de proximité aussi.
Tout à fait. C'est-à-dire, c'est une économie qu'on appelle l'économie courte, en ce sens que
les circuits courts,
les circuits courts, ce qui est produit sur les lieux et acheté sur les lieux et consommé sur les lieux. Et je crois que en termes culturels, un territoire en France qui perd son agriculture perd une grande partie de sa culture au sens non pas simplement que culture de la terre, mais culture humaine, donc humaine, quoi. Cette relation à la terre, elle est quand même très très forte en France. Et donc c'est important, effectivement, qu'on retrouve son agriculture.
Mathilde Barry.
Oui, je voulais compléter ce que Michel était en train de dire du point de vue économique. Justement, on est en train de mener un diagnostic sur l'offre et la demande en produits alimentaires locaux sur l'île-Dieu, en partenariat avec le groupement des agriculteurs biologiques de Vendée. Donc, diagnostic qui a pour objectif de déterminer quelle est la production sur l'île-Dieu, pouvoir l'évaluer, voir les perspectives de développement et surtout pouvoir évaluer la demande, par exemple du point de vue de la restauration collective, du point de vue de la restauration et du point de vue aussi des supermarchés, voir un peu évaluer s'il y aurait une demande, quel volume ce serait, à quel moment de l'année. Donc effectivement, on aura plus d'éléments pour répondre à cette question.
Ce diagnostic sera finalisé quand, Mathilde ?
A priori, en mars 2018. Là, on a fait une première phase de rencontre entre tous les acteurs pour déterminer un peu les envies de chacun aussi. Est-ce qu'il y a des envies d'avoir plus de produits locaux ?
Alors, quelles sont ces envies ?
Vous le saurez lors de la remise du diagnostic.
Ah, ça, c'est une excellente réponse, Roland. Mathilde est assez fine pour ne pas tomber dans ton piège.
C'était pas un piège.
Non, donc ça sera en mars 2018. On fera une restitution globale du diagnostic.
Georges, t'as bien un avis là-dessus ?
Sur le diagnostic ?
Oui.
Oui, oui, non, mais je pense que ce diagnostic est très important parce que... quel est le problème, en fait, de la distribution des produits agricoles qui sont produits ici? C'est comment on les vend. Hein, jusqu'ici, on les vend quasiment uniquement sur le marché. Il y a aussi, depuis quelques années, développement par les paniers. Mm-hmm. De temps en temps...
Mais par exemple, Casino et Super U vendent des tomates, des maraîchers.
Oui, mais c'est pas une production... c'est pas une vente constante. C'est pas, tu vois,
c'est pendant la période estivale.
Non, justement.
Non.
C'est souvent... avant ou après, c'est-à-dire qu'un maraîcher, il est obligé de penser le nombre de pieds de tomates qu'il faut planter pour pouvoir répondre à la demande en tomates au mois de juillet et au mois d'août. Mais ces tomates, elles commencent à produire avant et elles vont produire après. Ce qui fait que, bon, c'est pareil pour les melons, c'est pareil pour plein de choses. Donc, le maraîcher, de temps en temps, il s'arrange avec certains supermarchés, donc chacun a le sien en gros, hein, pour pouvoir vendre ses surplus. Bon, si on installe un nouvel agriculteur, il faudra automatiquement se poser la question, est-ce que c'est au marché qu'il doit vendre ? Étant donné que là, on va dire que la population qui va au marché, elle n'est pas forcément très extensible, surtout en dehors de la période estivale. Donc, quel moyen de distribution on a ? Bon, ben, on a les paniers, on peut créer une AMAP, surtout la restauration collective qui peut être intéressée, hein, l'EHPAD et puis les écoles. Il y a aussi les supermarchés. Donc, c'est le diagnostic, il va aussi travailler là-dessus, c'est-à-dire comment répondre à ces questions-là.
Est-ce que ça serait possible sur l'Île-Dieu de créer un petit supermarché avec tous les producteurs locaux ? Comme ça se fait notamment à Nantes.
Ça serait...
Mathilde.
Ça serait envisageable, mais pour le moment, c'est vrai qu'il n'y a pas les besoins sur les lieux d'une structure de ce type. Les producteurs n'ont pas de difficulté à écouler leurs produits, donc
c'est pas
une nécessité. Quoi.
Oui, et puis il y a une question d'échelle aussi au niveau du nombre d'agriculteurs. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a que 4 maraîchers, plus donc 2 éleveurs. C'est pas forcément évident, avec si peu d'agriculteurs, de faire ce genre de lieu de vente, comme ils ont fait aussi à Belle-Île, hein, ça s'appelle le coin des producteurs. Mais à Belle-Île, ils sont une cinquantaine d'agriculteurs, donc c'est complètement différent.
Quelles sont les zones propices aux activités agricoles sur l'île-Dieu, Mathilde, quand, Georges,
oui,
Michel?
Quand on parle de zones propices, il faut voir deux choses. On pourrait dire les zones propices sur le plan de la qualité des sols, c'est une chose. Et puis aussi zones propices pour nous, en même temps, c'est en fonction des remontées des propriétaires, c'est-à-dire quelles sont les zones sur lesquelles on a un nombre important de propriétaires qui nous ont donné leur accord pour pouvoir prêter ou louer.
Pour avoir un grand terrain, quoi.
Voilà, pour avoir un ensemble de terrains qui puissent être, relativement proches les uns des autres, voire contigus, pour avoir des surfaces qui soient viables. Hein, et c'est plutôt sur ce modèle-là que nous sommes en train de travailler.
Voilà, donc c'est ce qu'on appelle les zones prioritaires. Donc prioritaires en termes d'action pour un défrichage. Donc là, la zone principale sur laquelle on concentre nos efforts, c'est une zone qui est située, donc, qu'on appelle la zone des Vieilles, qui est située entre le Marais Salé et la plage des Vieilles, et qui est le long de la piste cyclable, là, sur le chemin du Chiron-Chat-Bureau. Donc par exemple, cette zone est propice parce que justement, on a eu pas mal de réponses à cet endroit-là. Et on a réussi à constituer un îlot intéressant d'environ 7000 m² où les propriétaires ont donné leur accord pour le défrichage.
Ah, excuse-moi, quand on dit 7000 m², ça fait presque un hectare. Donc c'est pour l'île-Dieu, c'est important.
Georges ?
Oui, puis il y a d'autres zones qu'on n'a pas appelées zones prioritaires, mais qui le sont quand même. C'est quelques parcelles qui sont déjà à côté des exploitants existants. hein, qui vont leur permettre de pouvoir se développer ou se consolider, ce qui est aussi important, quoi.
Le défrichage a commencé en 2017, il sera fini quand ?
Oh là là !
Quelle question !
On peut dire quand il commence, mais on ne peut pas dire quand il finit. C'est, dès qu'on travaille sur la terre et sur l'agriculture, donc à Roland, on sait qu'on travaille sur le long terme. Hein. C'est pas la même vitesse que pour une industrie. Donc je laisse plutôt Mathilde expliquer comment on vient de démarrer.
Mathilde, oui. Barry.
Alors, donc on a démarré sur cette zone prioritaire dont on vient de parler. Mais d'abord, il y a aussi un autre défrichage qui a démarré et qui a été terminé. C'était en janvier 2017 sur le siège d'exploitation de l'éleveur de rennes Apiselect, donc Renan Pointeau.
De rennes abeilles. De rennes d'abeilles.
Oui, des rennes caucasiennes, donc des élevages de rennes. Et donc là, on a défriché donc avec pour Renan une partie de son siège d'exploitation pour qu'il puisse installer ses ruches. Donc là, ça a permis aussi de tester le matériel, de voir comment se passait le défrichage et quel est l'entretien à mettre par la suite en œuvre.
D'ailleurs, c'est long ce défrichage, non ?
Bah, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs étapes dans le défrichage. Hein. Mmh. C'est-à-dire entre le moment où tu fais simplement passer un gyrobroyeur pour couper tout ce qu'il y a entre les arbres. Bon, ça, c'est déjà une première étape. Après, tout dépend ce qu'on va faire derrière. Si on fait du maraîchage, il va falloir couper les arbres, les arracher, remettre la terre en état. Ça, c'est assez long. Si c'est pour faire du pâturage, bah, ça peut être beaucoup moins long parce qu'on peut laisser un certain nombre d'arbres. Hein, faut au moins pouvoir passer avec un tracteur pour pouvoir faire semer de l'herbe pour que les vaches puissent brouter. Mais c'est pas du tout la même chose. Hein. Donc on va voir par exemple pour Renan Pointeau, donc les rennes d'abeilles. Lui, les arbres, il les a tous gardés. Hein. Et là, au contraire, c'était très bien pour lui. Donc bah, il a défriché. Puis après, c'était bon. Il faut simplement après comment éviter que ça repousse. Donc là, il y a des chèvres qui sont à l'œuvre. Là, les défrichages qu'on va faire aux vieilles. Bon, donc on est à la première étape. Et puis la deuxième étape, eh bien, on va aller sur le terrain, voir comment vraiment est le terrain, le sonder et avancer. L'étape suivante sera décidée après cette étude.
Qui défriche ces terrains ?
Alors, il y a plusieurs possibilités. Par exemple, les exploitants agricoles qui existent aujourd'hui, ils ont un peu de matériel pour défricher. Et donc, s'ils veulent le faire, ils pourront le faire en partie. Peut-être qu'il faudra de l'aide aussi, ça sera à voir en fonction des terrains. Sinon, on fait appel à une société de défrichage. Donc, on a demandé à plusieurs sociétés qui ont du matériel, des devis. Et là pour
oui, car ça a un coût. Tout
oui,
même.
Bien sûr, ça a un coût. Donc, le coût, il est pris en charge pour moitié par... les fonds européens qu'on a eus.
Le FEDER, quoi.
Le FEDER, et pour l'autre moitié, par l'exploitant. Hein, donc, quand il n'y a pas d'exploitant, ben, c'est le FEDER qui va avancer l'argent pour la totalité, et après, ça sera à voir avec celui qui va s'installer.
Les projets agricoles sur l'île-Dieu sont nombreux, les nouveaux projets ?
Actuellement, on a connaissance effectivement de plusieurs porteurs de projets. Déjà, il y a des porteurs qui sont en cours d'installation. Donc,
dans quel domaine ?
Par exemple, avec un projet de poulet fermier de Lionel Arnaud. Et puis, il y a aussi un projet qui est en cours d'installation également, de production de safran.
On peut même dire qu'il est installé.
Oui, il est installé.
Il est installé, voilà.
Ça y est.
Oui.
Ah, oui.
Donc, on aura bientôt du safran de l'île-Dieu. Après, il y a d'autres porteurs pour des projets d'arbres fruitiers, pour des projets éventuellement de poules pondeuses. Voilà, il y a différents projets. Après, ça sera à voir selon les opportunités de terrain qu'il y a aussi et ce qui est possible de faire, par exemple, sur cette zone prioritaire.
En vous écoutant parler, l'agriculture vit quand même sur l'île-Dieu. Est-ce que c'est plus dur que sur le continent ?
Moi, Georges, je ne suis pas un technicien.
Georges, le technicien.
Voilà, donc
il connaît bien l'île-Dieu.
Je préfère que ce soit Georges qui réponde.
Non, il ne faut pas se cacher les
d'ailleurs.
Choses. C'est quand même plus dur sur l'île-Dieu que sur le continent. Bon, il y a plein de raisons à ça. Hein. D'une part, on est loin quand même des structures agricoles, de coopératives, de choses comme ça. Tout est sur le continent. Hein. Donc, même pour faire réparer son matériel, c'est sur le continent, souvent. Donc, voilà, ça, c'est une difficulté. Difficulté du transport, hein, que n'ont pas le transport supplémentaire, que n'ont pas les agriculteurs sur le continent. Et puis, on ne peut pas dire que sur l'Île-Dieu, on a les meilleures terres de France. Hein. C'est pas la plaine de Luçon, ni la plaine de Fontenay-le-Comte. On a une terre arable qui est souvent peu profonde et qui demande du travail pour l'entretenir. Et donc, aussi, il y en a un problème d'eau, hein, qui va être un de nos chantiers à venir. Hein, c'est-à-dire, comment résoudre ce problème d'eau. L'Île-Dieu, malheureusement, n'a pas de... on ne peut pas faire de barrages, même si c'était simplement des petits barrages, parce que l'eau n'est pas retenue, il n'y a pas d'argile, donc l'eau passe à travers les fissures de la roche. Donc ça, c'est un problème que sur le continent, je connais nombre de paysans sur le continent qui, pour résoudre les problèmes de sécheresse qu'il y avait eu dans les années 70, ben, ont construit des barrages. Puis voilà, il y avait un bas de terre, un petit ruisseau, on construit le barrage. Ici, ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire.
Hors problématique de l'eau, quels sont les prochains projets de terre fertile et les prochains chantiers? Mathilde, Georges ou Michel?
Non, mais terre fertile, justement, c'est, dans le cadre du comité de développement de l'agriculture, c'est vraiment la reconquête de nos friches pour pouvoir développer l'agriculture.
Donc, le problème de l'eau ne rentre pas dans le projet de terre fertile.
Si, justement. C'est pour ça que je voulais bien dire, justement, que ce sera aussi... c'est-à-dire, en fait, il nous fallait quoi? Il fallait trois choses. Un, il nous faut des gens qui se portent des projets, sinon on ne ferait rien du tout. Deux, il faut trouver des terres, d'où travailler avec les propriétaires. Trois, il faut de l'eau. Voilà, ces trois éléments sont nécessaires.
Même obligatoire.
Oui, c'est obligatoire. Oui. Et pour ça, je dirais que si on veut que l'agriculture se redéveloppe à l'Île-Dieu, nous étions convaincus que ça ne se ferait pas tout seul. C'est-à-dire qu'il fallait qu'on arrive à associer en même temps et la collectivité locale, et les associations, et les agriculteurs, et puis des citoyens quoi, qui en même temps poussent dans ce sens-là. Alors, par rapport à ça, je voudrais aussi expliquer, parce que ça m'arrive souvent à l'oreille, des gens qui disent « Bah ouais, mais l'agriculture, c'est pas possible. Vous voyez, sur le continent, les gens, ils meurent de faim, etc. etc. » Bon. Alors, Georges a bien dit les difficultés qu'il y a. Ça, c'est sûr. Mais il y a aussi des opportunités en face. Et c'est sur ces opportunités que nous, on veut travailler. Quelles sont ces opportunités? La première chose, c'est que à partir du moment où nous sommes une île, il y a un problème qui coûte, c'est le transport.
Comme Jean le disait à l'instant. Donc,
ça veut dire qu'il faut qu'on puisse produire, vendre et consommer sur le même lieu. Ce qu'on appelle les circuits courts. Et ben, l'intérêt justement des circuits courts, c'est que toute la valeur ajoutée qu'il peut y avoir souvent dans le cas des circuits longs sur le continent où l'agriculteur vend à un grossiste ou à une coopérative qui vend ensuite à un transformateur, qui vend, etc., à un commerçant de gros qui vend, etc., et qui à chaque fois rajoute de la valeur, ben, tout ça en fait c'est concentré sur une seule et même opération, c'est celui qui produit, qui vend. Et donc, il peut vendre à un prix important, c'est lui qui récupère en fait toute cette valeur ajoutée. Ça, c'est un premier élément qu'il faut qu'on explique aux gens. C'est que s'il n'y avait pas ces circuits courts, effectivement, alors on ne pourrait plus avoir aucune chance d'agriculture sur l'Île-Dieu.
Les circuits courts pourraient nourrir toute la population de l'Île-Dieu, que ce soit en période estivale ou en période plus creuse, Georges?
Non, bien sûr que non. L'Île-Dieu ne peut pas nourrir 35 000 habitants ou même 25 000 habitants l'été. Ça, on est bien d'accord. Par contre, on peut, pour un certain nombre de légumes, au moins, parce que ne parlons pas des céréales non plus, mais pour un certain nombre de légumes, on devrait être en capacité de pouvoir nourrir la population illaise toute l'année, hein, c'est-à-dire les 4 à 5 000 habitants, je pense. Hein, c'est possible, on a fait des études là-dessus, c'est-à-dire que Terre de Liens a un petit logiciel qui permet de savoir en fonction du nombre d'habitants quelles sont les surfaces qu'il faut en pommes de terre, en carottes, en ceci, en cela. Et on devrait y arriver. Bon, mais comme l'a dit Michel, on est en train de le faire, ça va être long, on n'est qu'aux premières étapes, mais ça avance bien.
Mathilde, avant de te dire au revoir, le mardi 19 septembre, Terre Fertile organise un café installation agricole. Quels sont les objectifs de ce café?
Oui, alors du coup, c'est un café installation agricole pour les porteurs de projets. Donc, à n'importe quel stade qu'ils en soient de leur projet, même si on a juste l'idée d'une installation, mais qu'on n'a pas vraiment rédigé son projet, on peut venir à ce café installation. Et il y aura des témoignages d'agriculteurs déjà installés, de jeunes installés qui pourront témoigner sur leur parcours, toutes les démarches qu'ils ont effectuées, leurs difficultés, et voilà, partager leur expérience. Donc c'est vraiment un moment d'échange convivial entre les porteurs de projets et les jeunes installés. Donc aura lieu le mardi 19 septembre à 20h à la ferme d'Émilie, en partenariat avec l'ADR, qui est l'association de développement de l'emploi rural de Vendée. Voilà.
Merci Mathilde Barré. On rappelle, tu es chargée de mission Terre Fertile. À très bientôt.
À bientôt. Merci Roland.
Merci Michel Charot.
Salut Roland, merci.
On rappelle, tu es chargé du développement économique à la mairie de Lisle-Dieu. Merci Georges Biro.
Oui, merci Roland.
On rappelle, tu es le président du collectif agricole de Lisle-Dieu. À très bientôt.
À très bientôt.
On se retrouve dès demain dans Je vous dis pas, et comme chaque mercredi, c'est spécial ciné avec les films projetés au cinéma. Il est à demain, au revoir.
Je vous dis pas, votre magazine d'information locale. Retrouvez toutes les émissions sur neptunefm.com.